Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Fondée à 6, l'Union européenne comporte aujourd'hui 27 membres. C'est le fruit de 7 élargissements successifs que vous souhaitez passer en revue, Daniel. Dans quel but ?
L'élargissement est au cœur de la construction européenne. Depuis les années 70 et jusqu'aux années 2020, chaque décennie a connu un élargissement. Passer en revue les 7 extensions successives permet de mesurer la force d'attraction de la construction européenne. Mais c'est aussi rappeler que l'entrée de nouveaux pays dans des conditions spécifiques, avec des motivations et des visions propres, laisse craindre aux pays fondateurs que le projet politique originel européen perde en cohérence.
Alors, le premier élargissement illustre-t-il votre propos ?
Alors, la première vague de pays candidats à l'adhésion concerne au début des années 70 4 pays d'Europe du Nord-Ouest, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande et la Norvège. Le Royaume-Uni, puissance mondiale dotée de l'arme nucléaire, d'un rayonnement économique et financier international et d'un prestige historique et culturel majeur, porte la dynamique de cet élargissement. Pourtant, les Britanniques ne partagent pas le rêve européen des pères fondateurs. N'oublions pas que si, dès 1946, Churchill invite les dirigeants européens à construire les États-Unis d'Europe, il exclut que le Royaume-Uni en fasse partie. L'entrée du pays dans la communauté s'est faite sans enthousiasme à l'issue d'un processus pour le moins heurté. Bien que premier producteur de charbon et d'acier en 1950, le Royaume-Uni refuse de participer à la CECA. Après la naissance de la CE, en 1957, il prend l'initiative de créer 3 ans plus tard avec 6 autres pays une entité concurrente, l'AELE, Association Européenne de Libre-Échange. Dans les années suivantes, le changement de pied opéré avec la demande d'adhésion à la CE provoque dans le pays un vif débat, d'autant que les vétos français successifs en 63 et 67 sont très mal vécus. L'adhésion le 1er janvier 1973 du Royaume-Uni, difficilement acquise au Parlement britannique sous gouvernement conservateur, est contestée par l'opposition travailliste et par une partie de l'opinion. Il faut un référendum en 1975, après renégociation notamment de la contribution britannique, pour que soit entérinée l'appartenance du pays à la communauté. Pour les Britanniques, la construction européenne est un projet économique et seulement économique. Il s'agit de construire un marché intérieur le plus vaste possible, d'où leur position de principe très favorable à l'élargissement jusqu'à soutenir l'entrée de la Turquie. Le fonctionnement de ce marché doit être le plus libéral possible, sans intervention sociale européenne. Toute union politique est exclue et le maintien de la souveraineté à l'intérieur et à l'extérieur, défense et politique étrangère, non négociable.
Comment les Britanniques trouvent-ils place dans une Europe politiquement beaucoup plus ambitieuse ?
Eh bien, ils pratiquent le jeu du « dedans-dehors ». « Dedans », c'est la participation aux politiques européennes, notamment économiques et commerciales. « Dehors », c'est le recours au régime dérogatoire que le pays n'a de cesse d'amplifier en multipliant les options de retrait. Défense acharnée des intérêts financiers britanniques qui débouchent sur le rabais britannique en 1984, rejet de l'intégration politique avec en 1985 le refus de Schengen, en 1992 le refus de l'euro. En 2012, le refus du TSCG, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Rejet de toute réglementation sociale, refus en 1989 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, en 1992 du protocole sur le volet social de Maastricht, même si Tony Blair accepte de le signer 5 ans plus tard. En 2007, régime dérogatoire pour l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, participation sélective, c'est le moins qu'on puisse dire, aux politiques relatives à la liberté, la sécurité et la justice, dans l'UE évidemment, mandat européen, Frontex, etc.
Mais pourquoi faire le choix du dehors quand on profite autant du dedans ?
Alors, sans refaire l'histoire du Brexit, on sait que le recours au référendum pour trancher entre rester ou quitter a obéi principalement à des considérations de politique intérieure. Mais en juin 2016, le choix de partir a été fait démocratiquement par un peuple fortement mobilisé, 72% de participation, et de façon nette, 52% pour le quitter, pour le leave. Des ressorts profonds ont joué chez les électeurs brexiteurs. La tentation isolationniste, à base de souverainisme et de rejet de l'immigration communautaire comme extra-communautaire, La tentation mondialiste nourrie par la nostalgie de la puissance impériale assise sur le Commonwealth. Or, ces deux inclinations, en partie contradictoires, butent sur un même obstacle, le projet européen avec sa finalité d'intégration inacceptable pour les partisans de la sortie, d'où le fameux slogan « Goodbye UE, hello the world ». Au revoir l'UE, bonjour le monde.
Alors, que change la sortie du Royaume-Uni pour l'Union européenne ?
Alors, avec le départ du Royaume-Uni, l'Union subit une perte de puissance. 66 millions d'habitants en moins, soit 13% de sa population, 15% de son PIB et 5% de sa superficie. Par ailleurs, d'un point de vue politique, le retrait britannique prive un certain nombre de pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas aussi, les pays scandinaves, d'un chef de file libéral, tenant du marché intérieur, du libre-échange et défenseur de la libre concurrence, mais aussi, pour certains pays d'Europe centrale, d'un appui face au couple franco-allemand. D'un point de vue de la gouvernance européenne, le Brexit ampute le budget annuel de l'Union de plus de 12 milliards d'euros et prive l'administration de près de 2000 fonctionnaires européens de nationalité britannique, souvent de grande qualité. Mais surtout, le rétablissement d'une frontière terrestre entre l'Irlande et le Royaume-Uni en Ulster pose le problème inextricable du contrôle des marchandises entre les deux parties de l'île d'Irlande. Près d'un demi-siècle de participation n'a pas permis d'amarrer le Royaume-Uni au continent, mais 4 ans après le divorce effectif, la majorité britannique dit le regretter.